s'annonce déterminant pour l'avenir du peuple aztèque. 541. Deux décennies se sont écoulées depuis les événements de la conquête espagnole au Mexique. Un vieillissant Hernán Cortés est sur le pont d'un navire du Saint-Empire. Charles Quint, son souverain, l'a choisi pour participer à une expédition unique vers Alger. Le but, étendre le pouvoir de la couronne sur le continent africain. Mais depuis son retour en Europe, il y a quelques mois, Cortés semble maudit, victime d'un mauvais sort. Sur son passage, certains courtisans murmurent. Il est celui qui incarne symboliquement la conquête du Mexique. Alors qu'elle devrait être une source de gloire, sa manière de se substituer sur place à l'autorité du gouverneur de Cuba, tout comme l'ampleur des massacres, la discrédité. La Providence aussi semble l'avoir lâché. Alors que la côte africaine se profile, une tempête sournoise s'impose et détruit complètement la flotte de Charles Quint. Le navire de Cortés n'échappe pas à la furie des éléments. L'ancien maître du Nouveau Monde est même contraint de regagner le rivage à la nage. Épuisé, étalé sur le sable chaud qui l'accueille, le conquistador repense à la fougue de sa jeunesse, à l'ampleur de ses conquêtes et à la beauté de Tenochtitlan, Mexico. Derrière les promesses d'or, derrière son insatiable soif de trésor, Cortés s'est fourvoyé. Il a provoqué des catastrophes terribles et des morts inutiles. Le firmament de sa puissance est dépassé et sa gloire se teinte de l'horreur du sang versé. En Espagne, un autre homme a eu l'occasion de revenir au pays. Après des années passées à Rome, le compositeur Cristobal de Morales a reçu l'autorisation du Saint-Siège de faire une pause au cœur de sa patrie d'origine. L'Espagne lui manque. Il a pourtant fallu repartir. Mais le musicien se lasse de l'Italie. Il débute l'un de ses plus gros projets. Sur son écritoire trône une multitude de partitions, celle de son premier livre de messe, le Missarum Liber Primus. Le compositeur n'en est qu'au stade de l'ébauche. Il va lui falloir des années pour mettre en forme ce gigantesque ensemble. Et cela va l'épuiser. En novembre 1519, sous les murs de Tenochtitlan, Mexico, Cortés et Moctezuma se rencontrent pour la toute première fois. Cortés, comme tous les Espagnols, est subjugué par la taille de la cité aussi immense qu'ordonnée. Le Templo Mayor est le symbole de la puissance de la civilisation aztèque. Ici, tout est grandiose et tentaculaire. Moctezuma est à la tête d'une capitale qui abrite plus de 200 000 personnes. Ici, il est un dieu. Et l'ordre dans sa ville rappelle la puissance de l'Europe. Tout en nouant des alliances avec des peuples hostiles à l'Empire aztèque, Cortés n'a pas rejeté les approches des émissaires du souverain de Tenochtitlan, Mexico. Cette duplicité lui permet d'obtenir un accueil cordial et chaleureux de la part de l'empereur. Cortés et les Espagnols sont considérés comme des personnages hors du commun qu'il convient d'honorer. Alors toutes les conditions du conquistador sont acceptées. En premier lieu, l'homme demande une quantité d'or faramineuse. Pas de quoi effrayer les Aztèques, qui se détournent du métal précieux, plutôt attirés par le jade. Plus encore, Cortés intime l'ordre aux Aztèques de bâtir une chapelle pour la Vierge Marie. Requête acceptée. Moctezuma, lui, est un empereur puissant et respecté. À l'image de sa capitale, son régime est on ne peut plus solide. Voilà près de 20 ans qu'il est l'homme que ses sujets vénèrent comme un dieu. Mais aujourd'hui, tout est terminé. Lorsqu'il a appris la venue de ses hommes de la mer, Moctezuma s'est reclus, happé par la perspective d'un avenir sombre impossible à arrêter. Lequel ? La grande histoire va vite se remettre en marche. Cortés découvre de nombreuses richesses, dont le fameux trésor, et commence à craindre pour sa vie. Alors pour se protéger, il fait enlever Moctezuma et le garde prisonnier. C'est l'escalade. Le gouverneur de Cuba, las de la rébellion du conquistador, lance une armée à ses trousses. Bientôt 18 navires parviennent sur les côtes mexicaines. Mais plutôt que de se soumettre, Cortés se sert de l'appui des autochtones pour attaquer les Espagnols venus les contrer. Il parvient à les vaincre, à emprisonner leurs officiers supérieurs et à rallier les troupes envoyées contre lui en évoquant les richesses de la cité de Moctezuma. Dans le même temps, l'un de ses plus fidèles lieutenants resté dans la capitale avec une centaine d'hommes, fait massacrer plus de 1000 notables locaux. La colère gronde dans les rues de Tenochtitlan, Mexico, et malgré le retour de Cortés, la situation ne se détend pas. En juin 1520, elle échappe à tout contrôle. Alors qu'on le sort de sa cellule pour qu'il ramène le calme après une allocution publique, l'empereur Moctezuma est tué. Les circonstances de sa mort sont un mystère, mais cela met définitivement le feu aux poudres. C'est tellement le cas que dans la nuit du 30 juin 1520, les Espagnols doivent fuir à bride abattue. C'est ce qu'on appelle la Noche Triste. Elle entre dans toutes les mémoires et laisse présager le pire. L'année suivante, Cortés lance le siège de la capitale, animé par une profonde soif de revanche. Durant 75 jours, les combats détruisent une bonne partie de la ville. Après la reddition, le Templo Mayor est rasé et des centaines de milliers de personnes trouvent la mort. Les estimations sont incertaines, mais la plupart des études évoquent un total ahurissant de près de 200 000 victimes au total. Des dignitaires, notamment l'empereur Cuauhtémoc, qui succède au malheureux Moctezuma, sont capturés et torturés. Le but, leur faire avouer la localisation du fameux trésor recherché par Cortés et les Espagnols. Mais ils ne vont obtenir aucun renseignement. Alors, tout ça pour ça. Le conquistador se proclame leader de la Nouvelle-Espagne et cherche à obtenir l'appui de Charles Quint. C'est la fin du monde. La chute rapide et on ne peut plus inattendue de cette civilisation s'explique par plusieurs facteurs. Premièrement, les technologies militaires européennes dépassent de loin les capacités aztèques. Mais plus encore que ces massacres et ce siège meurtrier et mortifère, c'est aussi l'implantation des microbes européens sur place qui provoque bien des catastrophes après la conquête. Maladies, virus, de nombreuses personnes vont continuer à mourir sans passer par les armes espagnoles. C'est là l'un des effets de la mondialisation. Les luttes, elles, vont continuer. Les Espagnols vont se jeter sur le reste du Mexique afin de contrôler la côte pacifique. Il faut atteindre l'Asie plus rapidement alors que règne la guerre des épices contre le Portugal. Cortés, lui, s'attendait à recevoir une gloire qui dépasse l'entendement au pays. Il n'en fut rien. Son expédition marque un tournant moral en Europe. Le récit des crimes commis attire son lot de critiques, dont celle du pape, qui appelle à la reconnaissance de l'humanité des Amérindiens. Il faut aussi tempérer le côté sanguinaire prêté à Hernán Cortés. La légende noire du conquistador a surtout été forgée au XIXe siècle lors de la guerre opposant les États-Unis au Mexique. Certes, une violence terrible a été exercée sous son commandement, mais il n'en était pas nécessairement le responsable direct. De là à le dédouaner de toute responsabilité. Enfin, quoi qu'il en soit, le conquistador, certainement le seul à être mort dans son lit en 1547 en Espagne, n'aura pas achevé son rêve de devenir le maître absolu du Nouveau Monde. Au moment de son trépas, ses dernières volontés sont claires. Il veut reposer au Mexique. C'est son fils, né en Espagne, qui va faire le voyage avec la dépouille. Depuis 1562, le conquérant repose donc à Mexico, au cœur de l'église de l'Hospital de Jesús. Le Mexique, lui, s'est construit autour de cet héritage parfois bien lourd à porter.